la sphère neuro. Célia Morès sur Nutri Radio.
Passionnante, Célia Morès aujourd'hui qui nous parle de l'importance de manger en pleine conscience, mais surtout qui nous décrypte ce phénomène dont on entend parler. On est tous plus ou moins au courant hein, de voilà, en pleine conscience, manger, mais au-delà d'un concept vague et de bienfaits certains que l'on peut ressentir, il y a un décryptage que nous livre Célia Morès. Et notamment, moi je partage évidemment votre avis, mais que j'apprécie d'autant mieux, par exemple, sur l'exemple de ce garçon. Par exemple, sur l'exemple, vous voyez, c'est comme quoi il manque de vocabulaire, le jeune homme, le vieil homme. Sur le garçon qui mangeait des chips de manière un peu frénétique et finalement qui a été il avait besoin de sodium. Et je pense que ça, c'est très important quand on dit il faut écouter son corps. Quand on a vraiment besoin d'un aliment en particulier, c'est au-delà de l'aliment, il y a un ingrédient, un actif dont notre organisme a besoin. Célia, c'est vrai ça?
Ah, totalement. Alors après, c'est vrai qu'on peut se dire, moi j'ai besoin de sucre et de ma tablette de chocolat. Là, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais effectivement, si on a vraiment besoin d'un aliment, ça peut être un besoin, et quitte à aller consulter un médecin pour se dire peut-être que je manque de quelque chose pour avoir autant d'appétence envers cet aliment-là que je n'ai pas habituellement. Mmh. Alors quand ça reste dans des proportions toutes normales, on va dire, c'est pas très grave, on consomme parce que ça permet de rebooster peut-être son pool de minéraux, hein. Ça arrive qu'on ait envie d'oléagineux, par exemple, donc d'amandes, etc., parce qu'il y a des choses dedans dont on a besoin, mais effectivement, il faut toujours écouter et se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai envie de ça? C'est un point important.
Faut pas confondre, comme vous l'avez dit, moi j'ai besoin de chocolat, mon corps me demande du chocolat, je lui donne du chocolat, ou il me demande du tabac, je lui donne du tabac, non, c'est quelque chose qui apparaît d'un seul coup, Là, j'ai envie d'olives, de plus en plus d'olives, mais il y a peut-être quelque chose de caché. J'ai envie d'orange. Et ça arrivait avec mon fils il n'y a pas longtemps. Et pareil, il y a eu un diagnostic derrière. Il dit, il avait besoin de ça. C'est fou quand même. Bref, allons, continue ces émissions, mais que chacun s'interroge. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait, Célia?
Alors, déjà, il va y avoir plusieurs choses. C'est vrai déjà que je prenais l'exemple là du chocolat, mais ça peut être aussi un manque de sérotonine. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on manque de sérotonine, on a besoin de fabriquer sa sérotonine. Donc, peut-être qu'en-delà de calmer quelque chose ou un stress, ça peut être un manque de sérotonine. Donc, c'est bon aussi à savoir. Mais effectivement, manger en pleine conscience, ça va faire quoi? On va essayer d'être à l'écoute de quelle est notre faim. Et se poser une des premières questions, c'est qui a faim en moi? Il ne s'agit pas de se réfréner en disant c'est pas la faim de l'estomac ou c'est pas la faim des cellules, donc je ne mange pas. Mais le fait de savoir qui a faim en moi, lorsqu'on va craquer, que la personne va craquer envers un morceau de fromage, envers un dessert, même au restaurant, elle en prendra conscience, elle le fera en toute conscience. C'est là où est la différence. Parce qu'attention, un point important, je le répète, manger en pleine conscience n'est pas un régime, même si ça peut avoir pour répercussions et conséquences une perte de poids parce qu'on mange plus doucement, on est centré sur ses sensations, donc on a moins besoin physiquement d'apport, alimentaire, enfin d'apport, d'augmenter les portions parce qu'on sait qu'on arrive à satiété, on prend plus de plaisir, donc il n'y a pas ce phénomène-là. Et en plus, il faut le noter que ça ne diminuera jamais l'appétence chez certaines personnes pour les produits sucrés. Ça va faire en sorte qu'on le sait, on sait mieux gérer et on en prend conscience. C'est pas tout à fait la même chose. Donc la personne qui aime le sucre va pas du soir au lendemain dire « je n'ai plus d'appétence pour le sucre ». Mais en revanche, avec ce que je vais dire, elle saura comment gérer. Donc déjà se poser la question « qui a faim en moi ?» Est-ce que j'ai réellement envie de manger ? Est-ce que j'ai encore faim? Au fur et à mesure du repas, au lieu de manger de manière automatique, à différents temps, se poser la question, est-ce que j'ai faim, là, réellement, ou est-ce que je suis juste en train de manger de manière automatique? Et de continuer bêtement mon plat parce que j'en ai dans l'assiette, parce que c'est une habitude. Est-ce que je suis à satiété ou est-ce que je ne suis pas à satiété? Là, c'est des questions que l'on peut se poser. Le fait de faire des pauses, parfois, permet effectivement de prendre une décision qui est différente que si on la prend de manière un petit peu plus automatique et rapidement. Hein, c'est important de se dire, je me pose la question, j'ai faim, je suis à satiété ou pas, qu'en est-il? Ça va effectivement aussi le fait, quand il va y avoir une crise de compulsion alimentaire, de classer les aliments qui procurent ces compulsions, celui qui est le plus compulsif, à celui qui est moins compulsif. Lorsque je vais avoir faim, c'est aussi essayer de définir sur une échelle quel est le degré de ma faim. Est-ce que j'ai faim, que je n'en peux plus, que j'ai mal à l'estomac, que j'ai une faim de loup et que je pourrais manger 3 bœufs en entier? Ou est-ce que c'est une petite faim ou une envie de manger, justement pour savoir où on en est, de notre faim? Ça va être aussi de porter, et ça c'est important, attention aux aliments. J'ai fait, là, je vais faire une petite démonstration de ce qu'est manger en pleine conscience. Donc, j'ai tout un petit rituel que je vais évidemment lire parce que sinon, je risquerais de pas utiliser les bons mots et que j'ai fait avec certains de mes étudiants qui adorent certains types de chocolat enrobés dans très industriels. Donc, je ne citerai pas de marque, mais très industriels et enrobés dans du papier et très, très gras. Et ils avaient l'habitude dans le paquet d'en manger 2, 3, 4, 5. Et un jour, pour une des conférences que je leur ai données, je leur ai dit, ben écoutez, on ne fait pas le grain de raisin parce que, effectivement, le grain de raisin sec, c'est le test qu'on fait quand on fait manger en pleine conscience qui est relaté dans pas mal d'écrits. Et j'ai pris du chocolat et j'ai dit, on va faire le test avec ce chocolat qui est plus addictif qu'un raisin sec. Et effectivement, après avoir mangé ce chocolat-là de la même manière que celle que je vais vous dicter tout de suite, eh ben, ils en ont eu moins envie. C'est-à-dire qu'au lieu d'en consommer 3, 4, eh ben, ils sont restés à un chocolat parce qu'ils ont pris conscience du gras, etc., du chocolat, donc ils n'ont plus envie d'un second chocolat. Et c'est ça. Alors, évidemment, parfois c'est un petit peu long, donc il ne s'agit pas de faire ça quand on est à table avec des amis, mais il s'agit effectivement de sentir son plat quand il arrive, de se recentrer, de porter délicatement la nourriture à sa bouche, de se concentrer sur les saveurs et de ne pas effectivement de bien mastiquer, de pas avaler tout rond et surtout d'éviter de parler en mangeant parce que ça va diminuer le plaisir et si le plaisir est diminué, on va évidemment augmenter la prise alimentaire. Alors pour venir à la petite méditation de pleine conscience, vous allez prendre un chocolat par exemple, plutôt qu'y empaqueter parce que ça va jouer aussi sur l'aspect. Et ce chocolat, vous allez le regarder dans votre main, le mettre dans votre main et regarder son poids. Quel est son poids? Est-ce qu'il est lourd, pas lourd, etc. Vous allez observer sa forme, sa couleur. Et puis, vous allez tout délicatement ouvrir ce chocolat, enlever son papier. Vous allez écouter le bruit que fait le papier du chocolat. Ensuite, vous allez le mettre dans votre main. Vous allez le toucher. Est-ce qu'il est rond? Carré, quel est toujours son poids, est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est au lait, est-ce que c'est un chocolat praliné. Faites-le rouler dans votre main, donc délicatement, alors évidemment pas trop longtemps pour pas qu'il fonde, mais délicatement vous le faites rouler dans votre main, vous le testez, vous le touchez, etc. pour avoir cet aspect effectivement de texture et de toucher aussi. Puis vous allez délicatement le porter à votre nez en inspirant profondément pour sentir l'odeur et au fur et à mesure, vous allez ensuite le mettre dans votre bouche, mais vous n'allez pas l'avaler évidemment tout rond, mais plutôt observer les saveurs. Vous commencez à le mâcher, vous allez sentir tout finalement, les sensations que vous avez en le mâchant. Est-ce qu'il éclate en bouche? Est-ce qu'il y a des petites noisettes dedans? Quelles sont les sensations lorsqu'il est en train de fondre dans votre bouche? Et vous allez continuer ça pendant un petit moment, justement, en laissant ce chocolat sur votre langue, se briser en morceaux, et se briser en morceaux, se fondre, et le fait de sentir cette déglutition que l'on peut avoir lorsque finalement on va consommer du chocolat délicatement, donc en le faisant rouler sous la voûte du palais, par exemple, etc., pour ressentir effectivement ces sentiments-là. Et jusqu'au bout, et ensuite, à la fin de vos dégustations, quand vous aurez avalé ce chocolat, bah, effectivement, peut-être vous poser la question, est-ce que maintenant j'en ai envie d'un deuxième ou pas? Généralement, vous n'auriez peut-être pas envie d'un deuxième, mais si vous avez envie d'un deuxième, c'est pas se réfréner, mais en tous les cas, vous l'aurez fait en pleine conscience et vous n'aurez pas été finalement, je pioche dans la boîte de chocolat et j'en mange 3, 4, 5, 6 de manière automatique sans même me rendre compte du plaisir que je prends. Et ce petit exercice-là, je vous conseille de le faire puisque Pâques approchant, les chocolats sont de sortie déjà dans les boutiques et vous allez voir en famille, ça peut être un test assez rigolo à faire pour après noter les sensations que vous avez ressenties et ce que vous ressentez après la consommation de cet aliment.
En tout cas, je ne sais pas si ça marche, mais je sais que j'ai envie d'un chocolat maintenant.
Testez, vous allez voir que ça marche très très bien.
À tester, merci beaucoup Céline Morès. L'émission est dispo tout de suite en podcast. Hein, si vous venez d'arriver, l'intégralité, là, ce sera maintenant sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio si vous voulez vous l'écouter sans interruption. Merci Céline, à la semaine prochaine.
Prochaine Fabrice.
Allez, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Restez avec nous.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio. La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Célia Morès, qu'on va retrouver bientôt en en masterclass sur Nutri TV. Je peux vous dire que ça va être un grand moment, les masterclass de Nutri TV. Vous les retrouvez déjà sur nutritv.fr pour certaines d'entre elles. Et elles arrivent. Elles arrivent, celle de Célia Moraes. Elles arrivent. Vous êtes impatiente de voir ça, hein, Célia.
Ah, totalement, oui, oui. Puis surtout de partager et de faire découvrir justement les masterclass encore plus de Nutri Radio, effectivement.
Eh oui, alors là, c'est Nutri TV. On essaie de distinguer les deux.
C'est oui, la... Nutri TV, voilà. Mais c'est vrai que c'est.
La même maison, mais il y en a une, c'est le
son. C'est la même maison.
Et l'autre, c'est l'image. Donc, Célia Moraes sur Nutri TV, ce sera à voir très bientôt en masterclass. Mais d'ici là, rendez-vous hein, déjà sur nutritv.fr si vous voulez déjà soutenir un petit peu cette mission que nous avons depuis quelques années maintenant sur Nutri Radio, de vous donner tous ces. Contenu gratuit et partagé, voilà, c'est la passion aussi de ces intervenants qui partagent leur savoir, toutes ces années d'études et de pratiques, c'est mis à disposition. Donc rendez-vous sur Nutri TV pour aller aussi beaucoup plus loin. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont il est question très souvent, mais qu'on oublie aussi de faire parce que réseaux sociaux, parce que les tablettes, parce que les écrans, parce que ceci, parce que les conversations. Bref, vous allez nous parler de manger en pleine conscience.
Alors, totalement. Et alors, donc, pourquoi manger en pleine conscience?
Oui.
Tout simplement, ben parce que finalement, comme vous l'avez dit, on oublie souvent de faire attention, de se recentrer sur nos sensations. Et finalement, c'est le plus important. Lorsqu'on est centré sur nos sensations, lorsqu'on fait attention à ce que l'on mange ou à ce que l'on fait, évidemment, on va avoir une autre vision des choses. Et ça va permettre d'éviter certains troubles, et notamment, en l'occurrence, là, pour manger en pleine conscience, peut-être éviter certains troubles du comportement alimentaire, tout du moins certaines compulsions, ou de manger de manière anarchique. Alors, qu'est-ce que la pleine conscience? Déjà, la méditation de pleine conscience, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a rien à voir avec le bouddhisme ou ce genre de choses. Il n'y a pas de caractère religieux, c'est scientifique. Il s'agit de scanner ses fichiers personnels, il s'agit d'observer les actions et d'être surtout bienveillant envers soi-même et de ne pas porter de jugement. On ne porte pas de jugement, on est bienveillant avec soi-même. Et effectivement, manger en pleine conscience, la méditation de pleine conscience va avoir certains bienfaits qui ont été relatés dans les études scientifiques, donc qui ont été prouvés scientifiquement, au-delà de quelque chose de, comment dire, de subjectif. Ça devient objectif. Donc, il y a la neuroplasticité du cerveau qui va être augmentée. Donc, ça va être important. Hein, notre cerveau, plus il va être neuroplastique, plus la plasticité va se mettre en place, plus ça veut dire qu'il va y avoir des connexions synaptiques qui vont se créer. Donc, tout est bénéfique pour le bon fonctionnement du cerveau. Ça va permettre d'augmenter l'activité des fameuses zones cérébrales impliquées dans l'attention. Donc, forcément, puisqu'on médite en pleine conscience, on va faire plus attention, puisque c'est le but de cette méditation. Donc, on augmente l'activité de ces zones cérébrales. Donc, si elles sont plus augmentées, ces zones cérébrales, enfin, du moins l'activité de ces zones cérébrales sont augmentées, ça va permettre d'être plus ancré dans le moment présent et d'être plus attentif au monde qui nous entoure. Donc, forcément de faire moins d'erreurs, notamment dans les prises de décision. Il va y avoir aussi le fait de diminuer l'anxiété. Diminution des zones cérébrales qui sont impliquées dans l'anxiété, dans la douleur, etc., etc. Donc, ce qui va vouloir dire que finalement, les émotions négatives, non pas qu'on ne va pas ressentir que l'émotion est négative, quand il y a quelque chose de négatif qui va arriver, on va en prendre conscience, et pas le fait de dire tout est positif, tout est beau dans la vie. Mais ça va être mieux géré. Les grands méditants, comme on dit, gèrent mieux ces émotions négatives et prennent conscience que parfois, les émotions négatives qui sont dues à des pensées ne sont justement que des pensées et ne sont pas la réalité. C'est ça qui est important. Ça va permettre d'accepter les pensées, non pas de les aimer, mais de les accepter et de pouvoir évidemment y faire face, en prendre conscience, surtout tout en étant bienveillant, pardon, et en ne jugeant pas. Alors évidemment, il y a des bienfaits, notamment dans manger en pleine conscience, avant de passer à ce qu'est manger en pleine conscience en seconde partie d'émission, mais notamment les bienfaits, ça veut dire qu'on va recréer cet axe intestin-cerveau. Souvent, quand on mange trop rapidement, de manière automatique, avec les tablettes, etc., les téléphones, devant la télévision, bah, cet axe intestin-cerveau, il est un petit peu perturbé. Donc là, ça va permettre de recréer ce lien. Ça va permettre aussi, effectivement, d'avoir plus d'attention au moment de la prise alimentaire, donc de manger de manière moins anarchique. Le cerveau va savoir, donc, du coup, qu'il arrive à satiéter, hein, puisque, du coup, on n'est plus dans le mode automatique, pressé à vitesse, comme on peut le faire généralement lorsqu'on mange un sandwich devant son ordinateur, devant la télé, en écoutant quelque chose ou en regardant ses mails sur son téléphone ou sur sa tablette. Ça va permettre aussi de diminuer les inquiétudes liées à l'alimentation, à la prise alimentaire, et d'être beaucoup plus serein et de diminuer l'impulsivité que l'on pourrait avoir face à l'alimentation. Donc, si l'impulsivité est diminuée, bien évidemment, ça va avoir des répercussions, des conséquences positives sur la prise alimentaire. Il a même été montré dans certains articles scientifiques qu'il y avait eu une perte de poids chez certains patients, non pas parce qu'ils étaient mis au régime, parce que manger en pleine conscience, je le dis bien, ce n'est pas un régime. Loin de là, ça permet justement, en se recentrant sur ses sensations, de manger plus doucement, que le cerveau sache qu'il est à satiété et surtout d'être centré sur ses sensations. Et les sensations de plaisir, notamment, sont très importantes dans la prise alimentaire.
Célia Morès, je vous trouve excellente. Je ne sais pas pourquoi, je sens, hein, je vous ai dit depuis la semaine dernière aussi, j'ai l'impression qu'il y a une Célia Morès 4.0. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie qui fait qu'à un moment donné, je sens cette transformation? Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous tout, il y a quelque chose. Je le sais, je le sens, j'ai mon 6e sens, 7e, 8e sens. Que se passe-t-il?
Eh ben, c'est tout simplement, mais en fait, plus il fait beau, plus il fait soleil, finalement, on est... Bah, c'est ça, hein,
non,
c'est
souvent... Non, arrêtez.
Le soleil, pour moi, c'est vrai que lorsqu'il fait même froid, c'est pas grave, mais quand il fait soleil, généralement, je pense que, comme tout le monde, hein, on a beaucoup plus d'énergie, que lorsqu'il fait pas beau, on est un peu plus mal, donc, et puis parfois un peu plus fatigué, effectivement, lorsqu'on doit donner des explications, c'est pas toujours la même chose quand on est fatigué ou quand on est un peu plus en forme. C'est logique,
ouais,
ça.
Il y a de la rumba dans l'air. Il y a de la rumba dans l'air.
Même pas.
Allez, on marque une petite pause et on se retrouve. Et je vous souhaite à tout le monde de la rumba dans l'air, de la gaieté dans les cœurs, parce que dans ces contextes un peu compliqués, il faut qu'on reste là, diffuser des énergies positives. Petite pause et on se retrouve dans un instant en pleine conscience. Nous écoutons Nutri Radio et Célia Morès.
La sphère neuro, Célia Morès. Sur Nutri Radio.
Célia Morès sur Nutri Radio. Célia Morès sur Nutri Radio en pleine forme pour nous parler de la pleine conscience, s'alimenter en pleine conscience pour une meilleure santé. C'est important et elle nous décrypte pourquoi c'est important. Très précisément, au-delà des sensations, il y a un décryptage que vous allez nous apporter. Que signifie donc manger en pleine conscience ?
Alors, manger en pleine conscience, il va s'agir de focaliser sur les caractéristiques physiques de la nourriture. Alors, les caractéristiques physiques de la nourriture, c'est quoi? C'est le goût, c'est l'odorat, c'est le visuel, qui font appel finalement à tous nos sens sensoriels. Donc, vraiment se centrer sur ça, sur ces caractéristiques physiques que l'on ne fait plus. En fait, il faudrait avoir un petit peu la même démarche, comme vous savez, dans Top Chef. Ça a lieu bientôt, c'est en cours, et effectivement où les chefs, quand ils vont juger, le jury va juger effectivement les plats des concurrents, ils vont se centrer sur les caractéristiques physiques de la nourriture en regardant le visuel, l'odeur, si ça sent bon, le goût, etc. Ben là, ça va être un petit peu pareil, vraiment se centrer sur les caractéristiques physiques de la nourriture. Ça va être aussi se centrer sur les habitudes alimentaires qui reviennent. C'est-à-dire se dire, quand est-ce que je fais une crise? Pourquoi est-ce que je fais une crise? Quels sont les éléments déclencheurs de ma crise? Parce que je suis stressée? Parce qu'il m'est arrivé ça? À quel moment cela arrive? Pour essayer de les repérer et de repérer aussi quels sont les aliments qui sont le plus susceptibles d'être... finalement d'être utilisé dans ces crises. Il y a des gens, ça peut être du fromage, d'autres du saucisson, d'autres du chocolat, pour juste et savoir quelle est l'intensité en fait de l'envie, etc. Donc c'est vraiment se recentrer sur ses sensations, être attentif donc au caractère physique de la nourriture, se centrer sur ses habitudes alimentaires qui reviennent, pourquoi, à quel moment, est-ce que c'est le soir, le matin, pour quel type d'aliments, repérer les éléments qui vont déclencher bien évidemment. Ça va être aussi être attentif. Donc là, il y a quelques mots qui sont importants. C'est être attentif à ses sensations corporelles. Ça veut dire aussi être dans l'instant présent. Oublier justement les smartphones, les tablettes, la télévision. Développer pour manger en pleine conscience un environnement propice. Donc ça veut dire télé éteinte, radio éteinte, portable de l'autre côté de la pièce éventuellement, pour justement être centré seulement sur le moment du repas et non pas avoir des distractions. Puisque plus il y aura des distractions, on sait que manger devant la télévision augmente la prise alimentaire. avec une prise alimentaire automatique, voire compulsive. Ça va être ça. Ça va être aussi, finalement, donc de ne pas se porter de jugement, d'accepter certaines choses et peut-être de se dire, bon, voilà, j'aime pas forcément le fait qu'à 52 ans, 60 ans, 55 ans, je ne sais pas, je ne fais plus mon 34 de mes 18 ans. Ben, je n'apprécie pas, j'aime pas ça. Ça ne veut pas dire aimer ce phénomène-là, mais ça veut dire aussi accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas contrôlables et le fait surtout de ne pas porter de jugement et d'être bienveillant envers soi-même. Ça va être aussi le fait de se permettre de savoir quelles sont les fins auxquelles on sont soumis. Parce qu'il y a plusieurs types de fins. Et souvent, les gens ne le savent pas parce que on a faim, on se dit « j'ai faim, donc je vais manger ». Effectivement, donc il y a évidemment la fameuse faim de l'estomac, la vraie faim, la faim physiologique. Donc là, ça va être évidemment celle qu'on a déjà vue dans certaines émissions Nutri Radio. J'avais fait une émission dessus, justement, qui est encore disponible, je pense, en podcast. Donc cette faim de l'estomac qui permet de faire la balance entre la faim et la satiété. Mais il va y avoir aussi la faim qui sont liées finalement à nos sens, à notre système sensoriel, à nos cinq sens. Donc la faim visuelle, le fameux plateau de dessert et ou de fromage que l'on voit au restaurant alors qu'on n'avait plus faim, qui va attiser notre faim. Donc là aussi, c'est une faim visuelle, impact de la vision sur le déclenchement de notre envie de manger. Ça va être pareil pour l'olfaction, des odeurs, passer devant une boulangerie qui sent bon, cette odeur peut donner une envie de manger, alors que passer devant une boulangerie où il n'y a pas d'odeur, peut-être que ça ne nous déclencherait pas cette faim-là. Ça va être aussi la faim auditive. On sait qu'on a des faims liées, par exemple, les chips qui croustillent, le foie gras sur du pain grillé qui vont peut-être déclencher la faim. Donc, ce côté auditif qui va avoir aussi un impact. La fameuse faim aussi de la bouche. C'est important, le plaisir sensoriel, le plaisir de la bouche, de l'aliment au niveau de la bouche avec des goûts ou goûts. Imaginez, il y a des gens qui aiment les truffes, d'autres non. Le plaisir que ça donne en bouche. Et plus on va manger doucement, plus on va se rendre compte qu'on va avoir du plaisir en bouche, parce que sinon, le cerveau ne va pas prendre en considération ce plaisir en bouche et on risque d'augmenter pour avoir le même plaisir, de multiplier, ça a été montré dans certaines études, les portions par deux. Ça va être aussi, et ça c'est important, alors il y en a, pour moi, il y en a deux là, enfin deux qui sont importantes, trois qui sont importantes, pardon, en dehors de celles que je viens de citer, c'est la faim de l'esprit. L'esprit, c'est finalement l'intellectualisation, de la prise alimentaire. Ça peut être du style, ce soir, je sais que je vais avoir un repas au restaurant avec des amis qui risquent d'être copieux, j'anticipe et à midi, je mange peu. Ou alors, c'est le contraire. Ça a été montré dans certaines maisons de retraite où ils ont fait une expérience en disant donc aux personnes qui étaient dans la maison de retraite, ils ont dit, ce soir, ça sera un repas léger. De fait, pour anticiper de manière cognitive, intellectuelle, la faim de l'esprit a fait quoi ? Que ces personnes-là ont mangé plus à midi, plus que leur faim physiologique, tout simplement pour anticiper le repas léger du soir. Ensuite, il y a la faim des cellules. Et ça, on s'est souvent posé la question, pourquoi est-ce que j'ai envie de ça ? Pourquoi est-ce que j'ai autant envie de ça à ce moment-là ? Tout simplement, peut-être parce que ce sont les cellules qui nous les réclament. Dans un livre que j'ai lu, qui est celui de la méthode du docteur Yann Chosen-B, qui décrit justement le cas d'un enfant qui voulait manger des chips, et donc les parents l'emmènent chez le médecin, parce que un petit peu inquiet, et en fait l'enfant, s'il voulait manger des chips, c'est pas qu'il avait une passion particulière pour ces chips, c'est qu'il était en manque de sodium, donc il avait besoin de sel, et que pour retrouver son taux de sel, il n'avait rien trouvé de mieux que de manger des chips qui étaient très salés. Donc ça va être important. Et ensuite, le plus important, c'est la faim du cœur. Souvent, quand on n'est pas bien, on va avoir tendance à faire des compulsions alimentaires ou même si sans être compulsif, peut-être de manger la tablette de chocolat, etc. et de combler un vide dans l'estomac. Moi, ce que je dis, parce que j'aime beaucoup ce qui avait été dit aussi dans un autre livre justement sur manger en pleine conscience, c'est qu'au lieu de bourrer son estomac, reconnaître sa faim du cœur, savoir quels sont les aliments qui font plaisir, et au lieu de se dire je bourre mon estomac, après je suis pas bien, je me fais un cadeau. J'offre à mon cœur cette nourriture-là qui peut-être n'est pas saine, peut-être effectivement que c'est pas ce que j'aurais dû faire, mais à ce moment-là j'en ai besoin. Je l'accepte et comme on ferait un cadeau pour la Saint-Valentin à son amoureux, à son amoureuse, je me fais un propre cadeau, je m'offre cette nourriture-là pour me faire du bien et j'accepte qu'à ce moment-là, j'en ai eu besoin. Ça va être vraiment des choses importantes et effectivement à prendre en considération parce que ça va impacter la prise alimentaire, ça, le fait d'accepter, ça va diminuer effectivement les compulsions, non pas qu'on n'en aura plus, mais effectivement en distinguant ses fins, se poser la question, on le verra en troisième partie d'émission, que faire justement pour manger en pleine conscience et que faire justement pour éviter les compulsions en utilisant la pleine conscience, ça va avoir cette utilité-là. Distinguer les fins pour savoir qui a faim en moi est une condition sine qua non pour évidemment reprendre le dessus sur le comportement. Il ne s'agit pas de ne pas le vivre, le comportement, de ne plus le faire du tout. Il s'agit justement de ne plus le subir, ce qui est totalement différent.
Célia Morès, petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
Passionnante, Célia Morès aujourd'hui qui nous parle de l'importance de manger en pleine conscience, mais surtout qui nous décrypte ce phénomène dont on entend parler. On est tous plus ou moins au courant hein, de voilà, en pleine conscience, manger, mais au-delà d'un concept vague et de bienfaits certains que l'on peut ressentir, il y a un décryptage que nous livre Célia Morès. Et notamment, moi je partage évidemment votre avis, mais que j'apprécie d'autant mieux, par exemple, sur l'exemple de ce garçon. Par exemple, sur l'exemple, vous voyez, c'est comme quoi il manque de vocabulaire, le jeune homme, enfin le vieil homme, sur le garçon qui mangeait des chips de manière un peu frénétique et finalement qui a été, il avait besoin de sodium. Et je pense que ça, c'est très important quand on dit il faut écouter son corps. Quand on a vraiment besoin d'un aliment particulier, c'est au-delà de l'aliment, il y a un ingrédient, un actif dont notre organisme a besoin, Célia, c'est vrai ça?
Ah, totalement. Alors, après, c'est vrai qu'on peut se dire, moi, j'ai besoin de sucre, de sucre, de sucre et de ma tablette de chocolat. Là, c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais effectivement, si on a vraiment besoin d'un aliment, ça peut être un besoin. Et quitte à aller consulter un médecin pour se dire, peut-être que je manque de quelque chose pour avoir autant d'appétence envers cet aliment-là que je n'ai pas habituellement. Mmh. Alors, quand ça reste dans des proportions toutes normal, on va dire, c'est pas très grave. On consomme parce que ça permet de rebooster peut-être son pool de minéraux. Hein. Ça arrive qu'on ait envie d'oléagineux, par exemple, d'oléagineux, donc d'amandes, etc. Parce qu'il y a des choses dedans dont on a besoin. Mais effectivement, il faut toujours écouter et se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai envie de ça? Ça, c'est un point important.
Faut pas confondre, comme vous l'avez dit, moi j'ai besoin de chocolat, mon corps me demande du chocolat, je lui donne du chocolat, ou il me demande du tabac, je lui donne du tabac. Non, c'est quelque chose qui apparaît d'un seul coup. On a, tiens, là, j'ai envie d'olives, de plus en plus d'olives, mais il y a peut-être quelque chose de caché. J'ai envie d'orange. Et ça arrivait avec mon fils il n'y a pas longtemps. Et pareil, il y a eu un diagnostic derrière. Il dit, tiens, il avait besoin de ça. C'est fou quand même. Bref, allons, continue ces émissions, mais que chacun s'interroge. Que chacun s'interroge. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait, Célia?
Alors, déjà, il va y avoir plusieurs choses. C'est vrai déjà que je prenais l'exemple là du chocolat, mais ça peut être aussi un manque de sérotonine. Il faut pas oublier que lorsqu'on manque de sérotonine, on a besoin de fabriquer sa sérotonine. Donc, peut-être qu'en-delà de calmer quelque chose ou un stress, ça peut être un manque de sérotonine. Donc, c'est bon aussi à savoir. Mais effectivement, manger en pleine conscience, ça va faire quoi? On va essayer d'être à l'écoute de quelle est notre faim. Et se poser une des premières questions, c'est qui a faim en moi? Il ne s'agit pas de se réfréner en disant c'est pas la faim de l'estomac ou c'est pas la faim des cellules, donc je ne mange pas. Mais le fait de savoir qui a faim en moi, lorsqu'on va craquer, que la personne va craquer envers un morceau de fromage, envers un dessert, même au restaurant, elle en prendra conscience, elle le fera en toute conscience. C'est là où est la différence. Parce qu'attention, un point important, je le répète, manger en pleine conscience n'est pas un régime, même si ça peut avoir pour répercussions et conséquences une perte de poids parce qu'on mange plus doucement, on est centré sur ses sensations, donc on a moins besoin physiquement d'apport, alimentaire, enfin d'apport, d'augmenter les portions parce qu'on sait qu'on arrive à satiété, on prend plus de plaisir, donc il n'y a pas ce phénomène-là. Et en plus, il faut le noter que ça ne diminuera jamais l'appétence chez certaines personnes pour les produits sucrés. Ça va faire en sorte qu'on le sait, on sait mieux gérer et on en prend conscience. C'est pas tout à fait la même chose. Donc la personne qui aime le sucre va pas du soir au lendemain dire « je n'ai plus d'appétence pour le sucre ». Mais en revanche, avec ce que je vais dire, elle saura comment gérer. Donc déjà se poser la question « qui a faim en moi ?» Est-ce que j'ai réellement envie de manger ? Est-ce que j'ai encore faim? Au fur et à mesure du repas, au lieu de manger de manière automatique, à différents temps, se poser la question, est-ce que j'ai faim, là, réellement, ou est-ce que je suis juste en train de manger de manière automatique? Et de continuer bêtement mon plat parce que j'en ai dans l'assiette, parce que c'est une habitude. Est-ce que je suis à satiété ou est-ce que je ne suis pas à satiété? Là, c'est des questions que l'on peut se poser. Le fait de faire des pauses, parfois, permet effectivement de prendre une décision qui est différente que si on la prend de manière un petit peu plus automatique et rapidement. Hein, c'est important de se dire, je me pose la question, j'ai faim, je suis à satiété ou pas, qu'en est-il? Ça va effectivement aussi le fait, quand il va y avoir une crise de compulsion alimentaire, de classer les aliments qui procurent ces compulsions, celui qui est le plus compulsif, à celui qui est moins compulsif. Lorsque je vais avoir faim, c'est aussi essayer de définir sur une échelle quel est le degré de ma faim. Est-ce que j'ai faim, que je n'en peux plus, que j'ai mal à l'estomac, que j'ai une faim de loup et que je pourrais manger 3 bœufs en entier? Ou est-ce que c'est une petite faim ou une envie de manger, justement pour savoir où on en est, de notre faim? Ça va être aussi de porter, et ça c'est important, attention aux aliments. Je vais faire une petite démonstration de ce qu'est manger en pleine conscience. Donc j'ai tout un petit rituel que je vais évidemment lire parce que sinon je risquerais de pas utiliser les bons mots, et que j'ai fait avec certains de mes étudiants qui adorent certains types de chocolat enrobés dans très industriels. Donc je ne citerai pas de marque, mais très industriels et enrobés dans du papier et très très gras. Et ils avaient l'habitude dans le paquet d'en manger 2, 3, 4, 5. Et un jour, pour une des conférences que je leur ai données, je leur ai dit, ben écoutez, on fait pas le grain de raisin parce que, effectivement, le grain de raisin sec, c'est le test qu'on fait quand on fait manger en pleine conscience qui est relaté dans pas mal d'écrits. Et j'ai pris du chocolat et j'ai dit, on va faire le test avec ce chocolat qui est plus addictif qu'un raisin sec. Et effectivement, après avoir mangé ce chocolat-là de la même manière que celle que je vais vous dicter tout de suite, ils en ont eu moins envie. C'est-à-dire qu'au lieu d'en consommer 3, 4, ils sont restés à un chocolat parce qu'ils ont pris conscience du gras, etc., du chocolat, donc ils n'ont plus envie d'un second chocolat. Et c'est ça. Alors, évidemment, parfois c'est un petit peu long, donc il ne s'agit pas de faire ça quand on est à table avec des amis, mais il s'agit effectivement de sentir son plat quand il arrive, de se recentrer, de porter délicatement la nourriture à sa bouche, de se concentrer sur les saveurs et de ne pas effectivement de bien mastiquer, de pas avaler tout rond, et surtout d'éviter de parler en mangeant, parce que ça va diminuer le plaisir, et si le plaisir est diminué, on va évidemment augmenter la prise alimentaire. Alors, pour venir à la petite méditation de pleine conscience, vous allez prendre un chocolat, par exemple, plutôt qu'y empaqueter, parce que ça va jouer aussi sur l'aspect. Et ce chocolat, vous allez le regarder dans votre main, le mettre dans votre main et regarder son poids. Quel est son poids? Est-ce qu'il est lourd, pas lourd, etc. Vous allez observer sa forme, sa couleur. Et puis, vous allez tout délicatement ouvrir ce chocolat, enlever son papier. Vous allez écouter le bruit que fait le papier du chocolat. Ensuite, vous allez le mettre dans votre main. Vous allez le toucher. Est-ce qu'il est rond? Carré? Quel est toujours son poids? Est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il est au lait? Est-ce que c'est un chocolat praliné? Faites-le rouler dans votre main, donc délicatement. Alors évidemment, pas trop longtemps pour pas qu'il fonde, mais délicatement, vous le faites rouler dans votre main, vous le testez, vous le touchez, etc. pour avoir cet aspect effectivement de texture et de toucher aussi. Puis vous allez délicatement le porter à votre nez en inspirant profondément pour sentir l'odeur, et au fur et à mesure, vous allez ensuite le mettre dans votre bouche, mais vous n'allez pas l'avaler évidemment tout rond, mais plutôt observer les saveurs. Vous commencez à le mâcher, vous allez sentir tout finalement, les sensations que vous avez en le mâchant. Est-ce qu'il éclate en bouche? Est-ce qu'il y a des petites noisettes dedans? Quelles sont les sensations lorsqu'il est en train de fondre dans votre bouche? Et vous allez continuer ça pendant un petit moment, justement, en laissant ce chocolat sur votre langue se briser en morceaux, et se briser en morceaux, se fondre, et le fait de sentir cette déglutition que l'on peut avoir lorsque finalement on va consommer du chocolat délicatement, donc en le faisant rouler sous la voûte du palais, par exemple, etc., pour ressentir effectivement ces sentiments-là. Et jusqu'au bout, et ensuite, à la fin de vos dégustations, quand vous aurez avalé ce chocolat, effectivement, peut-être vous poser la question, est-ce que maintenant j'en ai envie d'un deuxième ou pas? Et ou pas. Généralement, vous n'auriez peut-être pas envie d'un deuxième, mais si vous avez envie d'un deuxième, c'est pas se réfréner, mais en tous les cas, vous l'aurez fait en pleine conscience et vous n'aurez pas été finalement je pioche dans la boîte de chocolat et j'en mange 3, 4, 5, 6 de manière automatique sans même me rendre compte du plaisir que je prends. Et ce petit exercice-là, je vous conseille de le faire puisque Pâques approchant, les chocolats sont de sortie déjà dans les boutiques et vous allez voir en famille, ça peut être un test assez rigolo à faire pour après noter les sensations que vous avez ressenties et ce que vous ressentez après la consommation de cet aliment.
En tout cas, je ne sais pas si ça marche, mais je sais que j'ai envie d'un chocolat maintenant.
Testez, vous allez voir que ça marche très très bien.
À tester, merci beaucoup Céline Morès. L'émission est dispo tout de suite en podcast. Hein, si vous venez d'arriver, l'intégralité, là, ce sera maintenant sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio si vous voulez vous l'écouter sans interruption. Merci Céline, à la semaine prochaine.
À la prochaine Fabrice.
Allez, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio, restez avec nous.
La sphère neuro, Céline Morès sur Nutriradio.